Steven Labrie.
Proposé par Denis Fortier, appuyé de Jean-François Hamel. Lecture et adoption de l'ordre du jour. Procès verbal de la séance précédente. Demande de rencontre, correspondance, comité MRC, gestion financière et administrative, entente sectorielle, service de proximité, politique de télétravail, cadre de gestion, fonds d'aide alimentaire, demande d'aide financière. Non, c'est retiré de l'ordre du jour. Ce règlement numéro
7.5, on va les reporter à la prochaine rencontre.
Oui. Alors, 7.6, règlement numéro 200, tri conditionnant des matières recyclables, recommandation COVID-19 Halloween, coopération intermunicipale, études de communication incendie, aménagement du territoire, on ne lira pas tout ça, mais on le fera tantôt, cours d'eau et environnement, développement économique, c'est les 16 projets FRR qu'on va passer tout à l'heure un par un. Dans les affaires nouvelles, il y a 4 éléments. Politique d'action, le plan d'action politique culturelle, activité incendie, et je vais appeler ça relance économique là, en 2 points. Période de questions, prochaine réunion du Conseil des maires et levée de la séance. Alors, ça me prendrait une proposition pour l'adoption de l'ordre du jour. Steven Laprise.
Steven!
Demande procès verbal de la séance précédente. Alors, vous l'avez tous reçu. Est-ce que je prendrai une proposition pour l'adoption?
Gaston Nadeau.
Gaston Nadeau, merci. Est-ce que vous avez des éléments pour revenir sur le procès verbal, des coquilles ou des éléments qui ont été oubliés? Ça va, merci. Demande de rencontre, Louis.
Oui, on avait 3 demandes de rencontre. Il va y avoir Mme Pascale Desilets de la MRC d'Arthabasca pour venir nous présenter normalement tout l'intérêt d'avoir une politique de gestion des cours d'eau et même un règlement pour assurer le libre écoulement de l'eau. Il y a également des représentants de l'organisme Les Couleurs du Vent, qui est un projet pour une maison de fin de vie dans la MRC des Appalaches, qui vont venir nous présenter leur projet, mais également une demande d'aide financière qui nous a été acheminée. Et également les représentants de l'organisme Au Monde, qui vont venir nous présenter leur projet, qui est des services au niveau de la périnatalité pour la MRC des Appalaches également. Mais également qui nous font officiellement une demande de contribution financière pour venir vous présenter le projet.
Merci. Correspondance?
On a reçu peut-être 2 correspondances à ce niveau-là. Une première correspondance, ça vient de la FADOC. C'est une demande de lettre d'appui concernant un projet qu'ils vont relancer au niveau des ateliers de formation pour vraiment accompagner les aînés à rester et à demeurer chez soi. Somme toute, c'est vraiment un projet qui est piloté par l'ACEP. Donc, tout ce qui nous était acheminé, c'est vraiment de les appuyer dans leur démarche pour la tenue d'une deuxième série d'ateliers qui va se produire à partir de l'année prochaine. Également, une correspondance du MEI. Vous aviez eu l'information avec les annonces, mais c'est juste pour nous signifier les modifications au niveau du programme d'aide d'urgence pour les PME, qu'on avait mandaté à ce niveau-là la SDE pour traiter les prêts de 50 000 $ mais c'est juste pour nous informer qu'il va y avoir une modification en fait en lien avec ça pour ce qui est également l'attribution des prêts de 15 000 $ mais avec une portion pardonnable de 13 000 $ qu'on devrait connaître les modalités sous peu pour procéder et aider encore là les entreprises sur une base mensuelle, mais vraiment plus pour les fonds d'opération.
Merci. Comité MRC, alors si vous avez eu des réunions virtuelles ou autres, levez la main, puis sinon on va passer à d'autres choses. Est-ce qu'il y a eu des réunions?
Oui, moi.
Oui, vous.
2 COGESAF. J'ai eu 2 réunions. Donc, il y a eu une réunion du COGESAF en virtuel pour présenter la première, dans le fond, le plan d'action, puis la première réunion après l'Assemblée générale. Une 2 réunions, mais qui se sont faites back à back sur le comité de l'aéroport, à savoir la réunion de l'Assemblée générale annuelle suivie du conseil d'administration. Donc, je dirais qu'à ce niveau-là, j'ai communiqué à Louis les ordres du jour. Il y avait des éléments pertinents au niveau de la MRC, mais Sinon, c'est ce que j'ai à dire. Au niveau du musée, il y a eu des réunions, notamment là, pour le remplacement potentiel de la direction générale, là, mais ça se fait beaucoup au niveau du comité exécutif. Il y a eu un changement de garde suite à l'Assemblée générale annuelle. Comme vous avez remarqué, c'est André Prost qui remplace donc M. Fauché, là, qui a laissé, mais qui reste sur le comité exécutif, mais qui a pris la pôle de la présidence. André, qui est un ancien enseignant en géologie du cégep de Tetford.
OK. D'autres choses?
Moi, j'ai eu Kergipas. Kergipas, ça faisait un méchant bon bout qu'on n'avait pas eu de réunion. Fait que c'était vraiment juste des mises à jour. Et puis, de voir aussi s'il y avait des dépôts à faire pour le 1er novembre là, pour Préca. Donc, on mijotait ça avant d'avoir une autre réunion. Fait que c'est pas passé grand-chose en tant que tel. La prochaine réunion, fin octobre. Donc, je vais peut-être en savoir plus, vous en dire plus.
OK. Est-ce qu'il y en a d'autres?
Oui. Qui a le droit, là?
Il y avait M. Hamel qui avait levé la main.
OK. On a eu une réunion pour le comité forestier suite aux consultations qui ont eu lieu. Et il y a eu quelques changements de fait, mais très légers, qui n'impliquent pas une nouvelle résolution de la MRC. Cynthia, peut-être, pourrait nous en dire un peu plus long. Sur le comité forestier?
Oui, oui, oui. En fait, effectivement, il y a eu une rencontre du comité forestier suivant la consultation publique qu'il y a eu le 25 août dernier et l'avis qu'on a reçu d'une municipalité le 26 août. Le comité s'est penché sur la question et est revenu. Dans le fond, on va proposer un règlement avec modification. Mais là, il est en consultation. En fait, là, j'ai demandé à la municipalité concernée de nous donner un peu, sans nous donner son accord formel, mais au moins qu'il ait la chance de relire un peu ce qu'on souhaite faire dans le futur règlement pour qu'on puisse l'adopter en bonne et due forme. Mais comme il y avait une rencontre ce soir, c'est pour ça qu'il n'est pas à l'ordre du jour.
Autre chose?
Oui.
Oui.
Sûreté du Québec.
Oui.
Dans le fond, c'est un rapport qu'on a eu un peu de la dernière année, les derniers mois. Juste pour noter qu'il n'y a eu aucun cas à la Sûreté du Québec qui ont testé là, positif là, à date. Là. Puis ils se font tester régulièrement aussi.
Ça vient de changer, Daniel. Aujourd'hui, il y a. En fait, hier, j'ai appris qu'il y avait des cas là.
Bon, ben, je suis désolé, notre réunion a eu lieu le 18 septembre, fait que ça change à tous les jours.
Oui.
On a parlé sur les règlements sur les chiens aussi qui étaient en vigueur et que c'était applicable. Il disait que cette année, il y a eu beaucoup moins de collisions par rapport à l'année passée. Cette année, 21 collisions au lieu de 66 l'année passée. Il y a eu une diminution d'intervention, mais par contre, il y a eu une augmentation de grande vitesse. Il y a encore les opérations Vulcan là, concernant la COVID-19 qui est encore en place. Ils ont eu des appels, 281 interventions selon le type d'appel. C'est plus pour éteindre les feux. Plus du monde qui se tourne, les voisins, des choses comme ça aussi. Un rapport aussi qui disait que les cadets, les patrouilleurs, dans les rues de Zérévi, ça a bien marché cette année aussi. Au niveau opérationnel, comme je disais, les collisions sont à la baisse. Les interventions sont normales. Celui qui a eu l'étiquette le plus élevé, la vitesse la plus élevée est à Stock, à 175, dans une zone de 90. Les voies de fait ont augmenté, par contre, on sait, là, avec la dépression, tout ça, avec la COVID, là, lié avec ça. Il y a eu un roulement de personnel aussi, là, je n'irai pas dans les détails, mais en gros, c'est un peu ça au niveau de la Sûreté du Québec.
Merci, Daniel. Est-ce qu'il y en a d'autres? Moi, je ne vous parle pas de mes réunions, comme aujourd'hui, c'est ma cinquième là, ce soir. Pourquoi je n'en parle pas? Parce que souvent, on les retrouve dans l'ordre du jour, dans différents points, mais la plupart sont tous reliés là, à la situation de la pandémie à l'heure actuelle. On en a de façon statutaire à tous les mardis avec la santé publique. On en a également avec Isabelle Lecourt, avec Luc Berthold, puis d'autres réunions. Fait qu'aujourd'hui, c'était la cinquième. Est-ce que vous en avez d'autres, vous autres, de votre côté? Ça va?
Merci. Il y a M. Jean-François Hamel.
Jean-François, excuse-moi, Jean-François.
Oui, juste pour dire que le comité consultatif en environnement, c'est quand la même planche d'action environnementale qui vous sera présentée tout à l'heure. Un bon travail de la part de Cynthia et de Caroline. Et c'est suite à des recommandations qu'on va vous présenter aussi la MRC d'Arthabasca, parce qu'il va y nécessairement y avoir besoin d'arrimer nos politiques puisque nous sommes en tête de 3 bassins versants. Alors, une bonne rencontre au niveau du comité consultatif en environnement. Ça faisait longtemps que cette rencontre-là, personnellement, elle était attendue. Je pense qu'elle a quand même pu jeter les bases d'un travail qui va être essentiel pour démystifier l'occupation de notre territoire ici. Alors, un gros chapeau et on va y revenir un petit peu plus tard justement là-dessus. Mais je voulais en profiter pour saluer le travail de Cynthia et de Caroline dans ce dossier-là.
Mm-hmm. Merci. Autre chose? Merci. Alors, on passe à la gestion financière et administrative en tant que sectoriel service de proximité.
Oui, oui, en fait, c'est le dépôt du cadre de gestion qui est en lien avec l'entente de sectorielle des services de proximité qui vous a été déposée. Le cadre de gestion, c'est vraiment pour clarifier au niveau des différentes modalités en lien avec l'entente sectorielle, mais aussi spécifier certaines modalités en lien avec l'appel à projet. À l'intérieur de ça, ce qu'on va également retrouver, mais c'est beaucoup les dates d'appel à projet pour l'année financière 2020-2021 qu'on ciblerait pour la période de janvier, février, mars prochain pour les dépôts de projet, ce qui nous laisserait les deux années subséquentes pour supporter différentes initiatives au niveau des services de proximité, mais également au niveau du cheminement des demandes à mon attention directement à la MRC, mais aussi par l'analyse et la recommandation par le comité administratif au Conseil des maires avant de les faire cheminer au comité directeur de l'entente qui est composé de l'ensemble des directeurs généraux des 9 MRC de la Chaudière-Appalaches.
Question? On n'a pas besoin de résolution là-dessus?
Oui, ça serait une résolution d'adoption du cadre de gestion.
Alors, une proposition?
François Berry.
Il y avait Pascal, je ne sais pas si c'est une question ou...
Non, je voulais simplement le proposer.
OK. Politique de télétravail?
Même chose, on connaît le contexte actuel. C'est un projet de politique de télétravail qui vous a été déposé. Le projet qui vous est présenté à ce niveau-là est vraiment spécifique dans le cadre de pandémie sous forme de projet pilote pour jeter les bases. Puis on aura à ce niveau-là la latitude suite au contexte qu'on connaît avec la pandémie et la situation d'état d'urgence, de voir si on souhaite poursuivre dans le futur avec cette politique-là ou si on la retire suite au contexte de pandémie.
Ça prendra une proposition parce que c'est une politique.
Ghislain Hamel.
Ghislain. Merci. Question, commentaire?
J'ai trouvé la politique intéressante.
Il y avait M. Hamel, Jean-François Hamel.
Oui, juste une petite question peut-être au niveau des équipements matériels. Moi, je me questionnais, on dit que les employés doivent assumer tous les coûts qui sont reliés à l'achat d'équipements et en contrepartie, on dit aussi que les équipements et le matériel fournis par la MRC doivent être utilisés exclusivement pour l'exécution des tâches. Moi, je m'intéressais surtout aux gens qui doivent supporter dans leur environnement informatique personnel des logiciels assez lourds en géomatique. Qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? C'était une interrogation que j'avais à ce niveau-là. Qui est responsable des licences et comment on assure que la gestion de ces licences-là sur des équipements personnels sont compatibles? Est-ce que ça va bien présentement? Est-ce qu'on prévoit des écueils? Donc, je voudrais peut-être juste vous entendre là-dessus, M. Laferrière.
Oui, il n'y a pas de problème. Mais en fait, juste pour dire, là où on n'assume pas de coûts, mais on fournit l'équipement quand même au niveau de la MRC pour ceux qui sont en télétravail. On se le rappelle également, c'est pas, on fonctionne vraiment sur une base volontaire en date d'aujourd'hui pour le télétravail. Fait qu'un employé qui est toujours justifié de travailler en présence au bureau, soit pour un contexte de tâche ou de son souhait de travailler au bureau, ou dans la mesure où ses tâches ne justifient pas qu'il puisse aller en télétravail dans le contexte actuel, va demeurer en présentiel au bureau pour réaliser ses tâches. pour les employés qui sont à distance à ce niveau-là, on n'assume pas de coût pour les dépenses excédentaires dans la mesure où on leur fournit l'équipement au niveau de la MRC pour les installer fonctionnels chez eux avec des ordinateurs qui sont leur poste de travail et qui sont reliés aussi à distance sur le réseau par VPN, dans le fond, au réseau ici de la MRC. Donc, même pour tout ce qui est impression de documents, sont en mesure de tout faire imprimer, numériser comme ça à distance, même à partir de leur poste de travail à la maison. Et pour ce qui est des licences pour des équipements plus lourds actuellement, les employés qui ont à utiliser principalement ces logiciels-là sont encore en poste au niveau de la MRC actuellement.
Parfait, je vous remercie. Ça répond très bien, M. Laferrière.
Ça fait plaisir.
Ça va? Carte de gestion fonds d'aide alimentaire.
Oui, c'est en fait en lien avec le fonds qu'on s'était réservé de 50 000 $ en juin dernier concernant pour vraiment venir en support aux différents organismes qui travaillent de près avec les citoyens au niveau de l'aide alimentaire, au niveau de la MRC. Dans l'éventualité, avec la situation qu'on vit actuelle avec la pandémie, on a déjà des premiers... un premier son de terrain que les demandes sont croissantes actuellement. Donc, dans le but vraiment de clarifier un petit peu les différentes modalités autour de ce fonds-là, la proposition, c'est vraiment d'adopter un cadre de gestion en lien avec ça qui vient stipuler autant les dépenses admissibles et non admissibles. En fait, ce qui est plus relié au niveau des dépenses non admissibles, c'est beaucoup plus en lien avec les dépenses administratives et de fonctionnement des organismes. Et on fixe également un seuil à 2500 $ par demande d'aide qui sera traité par un petit peu le comité d'aide alimentaire qui avait été formé en début de pandémie pour en émettre des recommandations d'appui directement au conseil des maires à ce niveau-là pour qu'on puisse octroyer ces aides financières-là également.
Proposition?
Propose.
Merci.
Je ne sais pas si Jean-François Hamel.
Oui, il y avait une petite question. Considérant au point 3 qu'on dit que le fonds d'urgence de la MRC va être considéré comme une aide de dernier recours, avec les dernières annonces au niveau fédéral qui ont été faites, qui justement ciblent les banques alimentaires, est-ce qu'il y aurait lieu peut-être de justement peut-être préciser que c'est qu'on va y aller au niveau de la proximité, mais que je me demandais s'il y avait peut-être lieu d'actualiser avec ce qui était récent au niveau des annonces fédérales? C'est une simple recommandation comme ça.
Oui, bien vraiment de s'assurer, c'est ça, que les fonds qui sont disponibles comme ça, tant du palier fédéral, provincial, soient utilisés dans un premier temps. À ce niveau-là aussi, c'est là que le comité, en fait, est bien au fait. Il y a différents, autant des partenaires également du CIS qui siègent là-dessus, fait qu'ils ont une bonne information aussi à jour au niveau des différents paliers d'aide et les aides à venir. Fait comme ça, il y a un bel arrimage qui peut être fait et les recommandations vont suivre à ce niveau-là. Auprès du Conseil des maires avec ces éléments-là aussi à prendre en considération.
Merci. Règlement numéro 200, tri et conditionnement.
Pour le fond, M. Vachon.
On ne l'a pas fait? Alors, quelqu'un pour l'adoption?
Ça a l'air, c'est fait.
Je l'avais.
Ouais, oui, c'était fait. Règlement M. numéro 200.
Je pense qu'il y avait peut-être une question, par contre.
Oui, Jacques.
On parle d'un fonds d'urgence. Si on attend au Conseil des maires, il y en a qui vont attendre. Est-ce que Louis a la latitude de débourser sur recommandation du comité, vu que c'est 2500 par cas?
Mm-hmm. Ben moi, ce que j'avais compris, là, c'est que on s'assure que les fonds fédéraux sont pris, que tous les autres fonds sont pris, étant donné qu'on est le dernier recours. Mais si on est rendu là, bien, écoute, on n'est pas pour attendre un mois pour se réunir, ça n'a pas de bon sens. Louis procéderait tout à fait avec la résolution qu'on a.
Si vous êtes à l'aise à ce niveau-là, bien, ça sera un rapport qui sera fait au niveau du Conseil des maires sur l'état des demandes et de ce qui aura été déposé comme demande d'aide au niveau du Conseil.
Là. Ça va pour tout le monde?
D'accord.
Bien, merci.
D'accord.
Règlement numéro 200, tri et conditionnement des matières recyclables.
Oui, en fait, attendu l'addenda au contrat de matières résiduelles entre la MRC des Appalaches et Récupération Frontenac, signé par les parties le 27 avril 2020. Attendu que Récupération Frontenac s'engage à recevoir les matières recyclables provenant de la collecte sélective organisée par la MRC des Appalaches en exécuter le tri et le traitement, à acheminer les matières triées vers les entreprises pour l'utilisation du matériel à des fins de recyclage et de valorisation, moyennant des frais de 55 $ la tonne métrique. Contrairement avant la signature de l'addendo, il n'y avait pas de frais reliés à cette compétence. Attendu le règlement déterminant les modalités, les tri et les conditions administratives à l'exercice de la compétence en matière de tri et conditionnement des matières résiduelles, précise que les dépenses encourues pour organiser cet exercice sont réparties entre les municipalités sur la base de la richesse foncière uniformisée. Attendu qu'il y a lieu de revoir cette disposition afin de considérer le mode de répartition des dépenses en fonction de la population des municipalités, mais aussi en fonction de la richesse foncière uniformisée. Attendu qu'un avis de motion a été donné à la séance du 9 septembre 2020. Attendu qu'un projet de règlement a également été déposé et présenté à la séance du Conseil du 9 septembre 2020. Il est proposé d'adopter le règlement numéro 200 modifiant le règlement numéro 71 déterminant les modalités et les conditions administratives à l'exercice de la compétence en matière de tri et de conditionnement des matières résiduelles sur le territoire de la MRC des Appalaches et ayant pour objet de modifier le mode de répartition entre les municipalités selon la richesse foncière uniformisée à 25 % et la population à 75 %.
Ça prendra un proposeur, là? J'en vois pas. OK, Jacinthe. Commentaire? Ça va, merci. Recommandation COVID-19 Halloween?
Oui, à ce niveau-là, ça serait une proposition pour vraiment aller au niveau de la MRC avec une recommandation de ne pas favoriser le porte-à-porte dans le contexte de la tenue des activités d'Halloween. Toutefois, compte tenu des récentes annonces au niveau du gouvernement fédéral, au niveau du Canada et les annonces à venir qui sont prévues pour demain, le 15 octobre, au niveau du gouvernement du Québec dans le point de presse du premier ministre, il est aussi recommandé que les municipalités adoptent un petit peu les mesures en fonction des recommandations qui seront émises également par le gouvernement du Québec pour la tenue des activités de l'Halloween.
Ça va? On a le sens général. Une proposition? Denis, merci. Coopération intermunicipale, étude communication incendie.
Attendu que l'MRC des Appalaches a pris connaissance du guide concernant le volet 4, soutien à la coopération intermunicipale du Fonds Région et Ruralité. Attendu que la ville de Thetford Mines, en coopération avec la MRC et d'autres municipalités de la MRC, désire présenter un projet de diagnostic des systèmes de communication des services incendie dans le cadre de l'aide financière, il est proposé que le Conseil des maires s'engage à participer au projet de diagnostic des systèmes de communication des services incendie et à en assumer une partie des coûts, que le Conseil autorise le dépôt du projet dans le cadre du volet 4 soutien à la coopération intermunicipale du Fonds Région Ruralité, et que le Conseil nomme la ville de Thetford Mines organisme responsable du projet.
Proposition, Jean-François Hamel, merci. Aménagement du territoire, modification schéma d'aménagement revisé, règlement numéro 199, adoption. Cynthia?
Oui, en fait, c'est qu'on a reçu l'avis préliminaire du ministre comme quoi que ce projet de règlement-là qui consiste à agrandir le périmètre urbain de la municipalité de Sainte-Clotilde-de-Beauce suite à une exclusion de la zone agricole, et conforme aux orientations gouvernementales. Donc, on est en mesure d'adopter le règlement 199, où ensuite, on va encore envoyer une demande d'avis au ministère des Affaires municipales qui vont donner leur avis sur ce projet, sur ce règlement-là. Il y a juste un petit élément que j'ai quand même ajouté, c'est que, dans le fond, le projet ou l'avis préliminaire du ministre mentionne qu'il aurait eu lieu d'avoir des mesures de, je vais dire, des zones tampons là, entre les résidences et le parc industriel. Ce à quoi j'ai répondu au niveau du ministère, que ça revenait plutôt au niveau de la municipalité. Donc, j'ai envoyé une note à ce sujet-là à la municipalité de Sainte-Clotilde-de-Beauce.
Merci. Ça prend une proposition pour l'adoption. Daniel Talbot. Demande de modification des zones inondables de la ville de Thetford Mines.
Oui, en fait, c'est que la ville de Thetford, suivant le décret de la zone d'intervention spéciale qui est arrivé en juin 2019, On a eu, en fait, ce décret-là, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris toutes les zones inondables et les zones à risque d'embarque du schéma d'aménagement et les ont intégrées dans cette zone d'intervention spéciale-là. Un élément qui a un peu popé, si on veut, c'est qu'il y a une zone à risque d'embarque entre la 9e rue et la rue Bellerive, le long de la rivière Bécancour, qui est là depuis 2002. Mais là, la ville souhaite que cette zone inondable-là soit retirée du schéma d'aménagement. Par contre, puis ce qu'ils ont fait faire, c'est qu'ils ont fait faire une expertise professionnelle par la firme Miroslav Schum Inc., qui lui recommande effectivement de retirer cette zone-là. Par contre, étant donné que le décret de la zone d'intervention spéciale qui est en vigueur, il n'est pas possible d'aller modifier le schéma d'aménagement pour retirer et même ajouter des zones inondables au schéma d'aménagement. On va pouvoir retirer éventuellement cette zone inondable-là une fois qu'on aura fait une deuxième reddition de compte au 1er mars, donc 2021, dans un premier temps. Et ensuite, on aura intégré et la MRC et les municipalités et la ville, dans le fond, le nouveau cadre réglementaire relatif aux zones inondables. Donc, pour le moment, il n'est pas possible de modifier le schéma, mais à la demande de la ville, dans le fond, on fait juste adopter une résolution qui dit qu'on reporte dans le temps cette demande-là.
Et est-ce que, quand on dit le report dans le temps, est-ce qu'on on le mentionne, ce temps-là? Là? Tu me parlais du mois de mars ou je ne sais pas quoi, là?
Bien, c'est sûr que c'est après le mois de mars, c'est au minimum au printemps 2021, mais je ne peux pas vous dire quand est-ce que le cadre réglementaire va être en vigueur, va être adopté au niveau du provincial. Puis ensuite, okay. C'est sûr que nous, on aura un travail d'intégrer ça. Là.
OK. Alors, ça me prendra une proposition. Jean-François Hamel, merci.
C'était plutôt une question, effectivement. Pour Mme Boucher, ça veut dire que si on est allé identifier une zone inondable à cet endroit-là et que ça a été clairement identifié qu'il y avait une possibilité d'embâcle, et si je me rappelle bien, cette zone-là doit être près d'un pont, est-ce que ça vient limiter les pouvoirs de la ville d'intervenir en cas d'urgence au niveau du démantèlement des embâcles?
Non. Non, okay. ça revient même, je dirais même à la MRC, parce que nous, on a l'obligation d'aller enlever les obstructions dans un cours d'eau. Là.
Oui, mais on comprend que si on est en situation d'embarque le printanier, l'intervention risque de dégénérer en plusieurs milliers de dollars de dégâts avant qu'on puisse intervenir d'une quelconque façon. Donc, à ce moment-là, ma deuxième question, je ne veux pas embêter avec ça, mais est-ce qu'il y a des entretiens préventifs qui peuvent être faits en fonction de prévenir ces embâcles-là qui risqueraient de mettre en péril la rue Bellerive de ce côté-là?
Marie-Alexandre? En fait, on a tous été étonnés d'apprendre que quelqu'un avait pensé qu'il peut avoir une zone d'embâcle là. C'est purement théorique, en fait. Il n'y a jamais eu de problème là, puis il n'y en aura jamais. C'est pour ça qu'on demande de le faire enlever. C'est complètement ridicule. Les citoyens qui sont là, dans le fond, quand ils ont été informés qu'il y avait une zone d'embarque en arrière de chez eux, personne n'a croyé à leurs oreilles. Et présentement, ça leur cause des problèmes si jamais des transactions immobilières parce que ça les prive de la jouissance de leur terrain. Il y a plein de choses qu'ils n'ont pas le droit de faire sur leur terrain. Puis il y a des choses qui ont été faites parce que personne ne savait qu'il y avait une zone d'embarque à cet endroit-là. Mais c'est purement théorique. Il n'y a jamais eu de problème là à notre connaissance dans les au moins 50-60 dernières années. Puis quand on va sur place, on se rend compte que c'est complètement à droit à cette place-là. Il y a la profondeur nécessaire. Il n'y a jamais eu de problème.
Parfait. Merci, ça répond. Donc, je pourrais en faire la proposition, M. Vachon.
OK, merci. Projet de loi 67, atteinte au pouvoir de zonage.
Veux-tu que j'y aille,
Louis? Oh, sinon, je peux y aller également. En fait, c'est beaucoup en lien avec une proposition en lien avec le projet de loi 67 qui avait été déposé. Donc, beaucoup ce qui est en lien avec ça, sans relire l'ensemble de la proposition, mais c'est beaucoup le lien qui est fait en fonction de l'atteinte au pouvoir de zonage directement des municipalités, d'aller réglementer beaucoup ce qui est en lien avec les usages, en lien avec les Airbnb. Je ne sais pas au niveau de ceux qui ont peut-être participé également avec directement dans les discussions avec les unions au niveau de autant la FQM, l'UMQ, je ne sais pas s'il y avait certains commentaires à apporter aussi à ce niveau-là, Marc-Alexandre.
Ben, en fait, on voit exactement dans le même sens, là, au niveau de nos municipalités. Les municipalités n'ont pas des pouvoirs sur plein d'affaires. Là. Quand on a un pouvoir de zonage comme celui-là qui est important, on verrait très, très mal à ce que le gouvernement de proximité que nous sommes se fasse enlever des pouvoirs comme celui-là. Là. Les personnes qui connaissent le mieux notre environnement, qui sont plus à même de prendre des décisions sur ce qui se passe chez nous, ben, on veut que ce soit nous et non pas qu'il y ait une directive qui arrive d'en haut. Là.
C'est exactement la même chose du côté de la FQM.
Fait que si vous êtes à l'aise avec ça, c'est vraiment pour enlever les notions en fait qui sont reliées avec l'intervention qui est spécifique au zonage en bordure des lacs et cours d'eau pour tout ce qui est l'usage permis au niveau, somme toute, en lien avec les Airbnb, puis de vraiment l'acheminer à l'ensemble des parties concernées, également le faire suivre au niveau des deux unions municipales.
Proposition? Un proposeur, s'il vous plaît.
Oui, il y avait Pascal et Marc-Alexandre là, qui avaient levé la main.
Seigneur, là, je ne les vois pas. Moi, ils gèlent, les écrans gèlent. Excusez-moi. Programme d'aménagement durable des forêts, PADF. Cynthia?
Oui, en fait, c'est qu'on a un programme d'aménagement durable des forêts qui est en vigueur depuis déjà, ça fait déjà deux moutures qu'on a de 5 ans. La prochaine, ben, en fait, c'est là qui est en ce moment en vigueur, se termine le 31 mars 2021. Pour le moment, on n'a pas de nouvelles du ministère de la Forêt, Faune et Parcs à savoir si le financement va être reporté ou réitéré, si on veut, pour 5 prochaines années encore, donc 2021 à 2026. Donc, et cet argent-là sert notamment au fonctionnement et à la coordination de la table de gestion intégrée des ressources du territoire de la région de Chaudière-Appalaches. Mais il y a également une enveloppe pour les MRC participants dont on fait partie pour pouvoir réaliser des projets d'intervention ciblés, pertinents sur leur territoire respectif, notamment, principalement en lien avec la forêt. De notre côté, ici, c'est beaucoup plus pour la forêt privée. Et dans le fond, ce qui est demandé, c'est de demander au ministre de la Forêt, Faune et Parcs de reconduire le PADF pour les 5 prochaines années.
Ça va? Est-ce que tu n'as pas besoin de résolution pour ça?
Oui.
Oui. Alors.
Rip Chabot.
Parfait. Merci. Les bons. Non, PRMHH.
Facile à dire. Plan régional des milieux humides et hydriques. Dans le fond, c'est juste pour vous faire un suivi là, où on en est rendu dans le projet régional Chaudière-Appalaches. À ce jour, au niveau de l'étape du portrait, les données ont été analysées et traitées. La rédaction est en cours, notamment au niveau du portrait socio-économique au contexte d'aménagement qui est complété à 80 % tandis que le portrait environnemental, celui-là, est complété à 20 % Et normalement, on devrait avoir une version à partager à partir du quatrième trimestre. Là, donc, on va pouvoir vous en donner un peu plus de détails à partir du quatrième trimestre ou du premier trimestre de 2021. Au niveau du diagnostic, on a fait les forces, faiblesses, opportunités, menaces qui sont toujours en cours. Il y a eu l'identification des enjeux, des préoccupations principales et des objectifs. Et il y aura une priorisation des milieux humides d'intérêt là, qui débutera sous peu. Et l'échéancier est prévu pour décembre 2020. On parle vraiment des milieux humides. En parallèle de tout ça, il y a toujours des activités de consultation, concertation, communication là, qui suivent son cours. On a eu différents ateliers. On a eu des ateliers de force, faiblesse, opportunité, menace par secteur d'activité, donc forestier, agricole, récréotouristique, urbain et j'en passe un. Ensuite, le deuxième atelier, c'était celui-là par bassin versant. Même chose avec les forces, faiblesses, opportunités, menaces. Et l'atelier 3 qui va être en novembre, c'est concernant les objectifs et les moyens de conservation par bassin versant. Ensuite de ça, ce qui s'en vient, c'est que là, il va y avoir des sous-bassins qui ont été ciblés. Là, on ne pouvait pas faire l'ensemble de tous les sous-bassins de la Chaudière-Appalaches. Pour la MRC des Appalaches, ça va être celui de la rivière Bécancour, de la Haute-Bécancour, donc du lac Bécancour et jusqu'à la municipalité d'Irlande. mais il n'y aura pas les autres municipalités en périphérie, Kenosmith, Saint-Jacques-de-Lys. Pourquoi? Parce qu'il y avait des enjeux complètement différents de ce qu'on retrouve ailleurs en Chaudière-Appalaches pour ce secteur-là de la rivière Bécancour. Donc, il va y avoir, vraiment y avoir un atelier spécifique sur celui-là. Et ensuite de ça, il y a un sondage, là, je l'ai dit, mais on a jusqu'à demain là, un sondage pour les citoyens pour connaître un peu qu'est-ce qu'ils connaissent des milieux humides et qu'est-ce, si eux ont déjà des pistes d'action potentielles. Un autre élément que j'aimerais quand même porter à votre attention, c'est que suivant une des rencontres qu'on a eues avec un organisme de bassin versant, le Gros Bec, ce que j'aimerais faire de mon côté, en lien avec le plan régional des milieux humides et hydriques, c'est de rencontrer chacune des municipalités plus individuellement pour aller vous poser des questions, mais pour vous entendre, vous, sur différents éléments. Bon, notamment, avez-vous entendu parler du PRMHH? Mais est-ce que vous avez des objectifs d'aménagement? Sont où vos projets d'aménagement ou de développement? Est-ce que vous connaissez déjà des secteurs qui pourraient être identifiés comme secteurs d'intérêt à conserver? Est-ce que vous avez aussi à votre connaissance des secteurs plus problématiques au niveau des cours d'eau, au niveau des milieux humides? Bref, je veux faire une soirée, peut-être une heure ou deux, là, avec chacune des municipalités, avec les DG, les inspecteurs, les élus, pour après ça, un, nous s'alimenter, mais aussi vous faire parler parce que je veux entendre ce que vous avez à dire. Au lieu qu'on arrive et qu'on vous dise, ben voici, c'est ça. Donc,
c'était le but un peu de la démarche quand on avait, je pense, c'est un dossier que plusieurs ont, il y a des enjeux, des préoccupations aussi autour de l'ensemble de la démarche qui se fait là. Fait que je pense que la proposition de Cynthia va très bien dans ce sens-là aussi. Le but, c'est vraiment d'arriver avec un plan, non pas qui est travaillé au niveau régional, puis qu'après ça, on vous le descend en haut. Mais le but, c'est vraiment d'aller chercher les préoccupations et les réalités vraiment du terrain, mais aussi dans une perspective de développement dans le futur pour vraiment que le plan représente bien autant les enjeux locaux que les enjeux des fois plus régionaux avec la gestion de tout ce qui est en lien avec les milieux humides.
Ça va? Alors, oui, j'allais juste terminer en disant que demain, on rencontre les DG, puis déjà, je vais commencer à essayer de cibler des soirées là, pour planifier pour qu'on en commence avant les fêtes. Là.
Parfait. Pas de questions, pas de commentaires, merci. Les bons coups des municipalités. Ou mon écran est gelé, ou l'enthousiasme n'est pas là. Cours d'eau et environnement, plan d'action en environnement.
Oui, donc je vous ai mis en pièce jointe ce matin. Suivant le comité consultatif en environnement, là, un tableau sommaire des cinq enjeux, en fait, comme j'avais dit au dernier conseil, les orientations, les objectifs ainsi que les actions. Donc, juste pour y aller rapidement, là, on a une trentaine d'actions, 33 actions réparties en 2021, 2022, 2023 et on a identifié avec le comité consultatif en environnement qui seront les porteurs. Ou le porteur de ces actions-là. On ne voulait pas que ça soit seulement la MRC. Il y en a plusieurs que ça va être les municipalités. Puis il y a des cas où ça sera une partie la MRC, une partie les municipalités. C'est sûr que là, vous avez un tableau sommaire, mais dans le plan d'action final, on a vraiment détaillé chacune des actions. C'est quoi les cimes, quels sont les indicateurs, c'est quoi... Puis un autre travail qu'on va faire aussi avec le comité consultatif en environnement, c'est juste d'établir, grosso modo, un portrait financier de ce que ça va impliquer, là, autant pour la MRC que pour les municipalités. Donc, ça, c'est le prochain travail qu'on aura à faire avant l'adoption finale.
Peut-être juste une petite note au niveau financier. Tu sais, l'objectif, c'est vraiment, si on est en mesure de le faire rapidement avec Cynthia Caroline et tu sais, beaucoup au niveau des directions générales, c'est vraiment pour que chacune des municipalités qui souhaitent après ça mettre en œuvre le plan d'action au niveau de la municipalité avec les actions qui les concernent, qu'il y ait une idée d'ordre de grandeur de ce à quoi ça peut ressembler pour réussir à mettre en œuvre certaines actions. Un peu comme il avait été fait dans le schéma de sécurité incendie avec les différents services sur le territoire, bien, il y avait une évaluation des coûts de pour réussir à le mettre en œuvre, bien, il faut prévoir au niveau de l'exercice budgétaire un ordre de grandeur de montant. Fait que c'est vraiment dans le but, non pas de vous engager pour un montant précis, mais de vous outiller vraiment dans votre planification budgétaire annuelle à être en mesure de prévoir le coût de certaines actions à mettre en œuvre.
Puis l'idée aussi, c'est de le faire pour l'année financière 2021.
Oui. C'est bon? Louis, j'ai perdu mon...
Il y avait M. Jean-François Hamel qui avait...
Jean-François?
Il n'y a pas de problème. Merci. Une question pour Mme Boucher. Cynthia, au point 7, à l'objectif 1.2, on parlait d'offrir une formation aux inspecteurs municipaux. Puis là, ce que je suis en train de lire, c'est en voirie sur l'entretien des fossés municipaux. Mais de mémoire, me semble que l'offre de formation n'était pas juste non plus spécifiquement aux fossés municipaux, mais pouvait aussi déborder sur toute autre question en environnement. Est-ce que je me trompe ou là, présentement, l'offre semble être vraiment précise pour les fossés municipaux. Je voudrais juste t'entendre là-dessus, s'il te plaît.
Oui, en fait, c'est probablement une petite coquille là, qui s'est insérée là, mais on avait aussi ajouté un nouvel objectif 1.5 d'assurer le partage de l'information entre les municipalités. Au niveau de la formation, il revient quand même à plusieurs endroits là, dans différents objectifs, différents enjeux. Fait que oui, c'est pour la voirie de l'entretien des fossés municipaux, mais effectivement, il y aura d'autres formations, notamment on parlait du Q2R22, là, qui sera plus bas dans une autre action, mais pas en lien nécessairement avec les bandes riveraines. Mais on aura toujours le loisir de faire plus de formations sans problème.
Parfait, merci. Je ne voulais juste pas que ça limite dans la compréhension des autres élus du fait que l'offre de formation qu'on voulait donner ne se limiterait, par exemple, qu'aux fossés de voirie municipaux, mais que ça pouvait déborder sur peut-être des formations plus spécifiques à l'ensemble des besoins de la MRC.
Exact. Puis à ce niveau-là, je pense que le commentaire est très pertinent. Puis dans le même sens, j'invite encore une fois les municipalités, si vous avez des fois des besoins spécifique en lien, que ça soit en lien avec l'environnement comme ça, de faire connaître les différents besoins de formation, parce qu'après ça, si on est capable d'arrimer des fois des formations avec plusieurs municipalités ou voire avec l'ensemble des municipalités, bien, ça peut ouvrir des belles opportunités comme ça de formation et de partager l'information au plus grand nombre possible.
Parce que dans le fond, si vous permettez, c'était juste qu'en même temps, en ayant fait cette analyse-là, on s'est rendu compte que plusieurs des formations de la Combec étaient souvent offertes en dehors de la région. Alors, d'être peut-être capable d'intéresser des formateurs de la Combec à venir donner des formations ici pour la MRC. Donc, c'était pour fin d'information auprès de mes confrères élus.
Merci. Bien, révision du PGMI.
Excusez-moi.
Oui.
Je veux juste m'assurer que vous venez de nous présenter, c'est plus un projet, c'est vraiment cané, fait qu'on peut l'utiliser avec notre conseil, le partager avec eux?
Non, il va, dans le fond, le plan d'action en environnement va s'adopter officiellement au mois de novembre à la MRC.
Parfait. Mais bon.
Donc, c'est un document de travail.
D'accord.
C'est important de le dire.
PGMR.
Oui, au niveau du PGMR, donc je n'avais glissé un mot le mois dernier. Là, on travaille un projet régional. Là, on commence à avoir des chiffres sortir. On n'a pas encore le chiffre final. Donc, dire oui, OK, allons-y avec une offre de service, mais juste pour vous dire que le projet régional pour la MRC des Appalaches, ça coûterait autour de 25 000. Là, donc, c'est pas mal ce qu'on avait budgété. Donc, on reste dans nos prix. On est très heureux de tout ça. Là. Puis, ça va être un projet régional. Donc, il va y avoir une espèce de tronc commun. Ensuite, chacune des MRC, donc on est 7 MRC, on va avoir chacun notre PGMR. Mais au final, ce qui va se passer, c'est qu'on va regarder, en fait, la firme qui va s'occuper de faire ce PGMR-là va regarder est-ce qu'il y a des possibilités d'avoir des actions communes. Et après ça, on pourra peut-être faire des projets régionaux avec d'autres MRC en lien avec le PGMR. Donc, c'est somme toute un projet intéressant. Puis les prix, comparativement à là, 6 ans, n'ont pas très augmenté. Donc, je pense qu'on peut être content.
Non, c'était somme toute, c'est ça. Lorsqu'on avait fait la démarche pour le PGMR actuellement en vigueur, c'était dans cet ordre-là de grandeur pour avoir l'accompagnement du consultant pour réaliser le plan. Fait que l'intérêt au niveau de le travailler au niveau régional pour ce volet-là et pas tant au niveau financier pour la réalisation, mais c'est surtout après ça, dans la mise en œuvre, on va se donner peut-être plus d'opportunités de travailler des actions au niveau régional, puis il y a aussi des fonds qui sont uniquement dédiés au niveau des actions régionales. Si on pense, par exemple, au phare, qu'on va être au moins 7 MRC de Chaudière-Appalaches pour pouvoir les mettre en œuvre, mais actuellement, on serait 7 MRC à adopter un peu cette réflexion-là, puis se tronc commun là au niveau du PGMR. Ça fait que ça nous donne des leviers financiers de plus au niveau des régionales pour la mise en œuvre de plusieurs actions dans le futur.
Merci. C'est beau. Développement économique, fonds, régions, ruralité. On va y aller projet par projet. Vous avez également un tableau qui vous donne tous les pointages dans différents secteurs. Puis vous avez la totalité des pointages. Alors, on va y aller projet par projet. Je vais prendre une proposition pour chacun des projets. Et si vous avez des questions, bien, n'hésitez pas. Alors, projet 1, embauche d'un chargé de projet, quoi d'avient?
Considérant l'évaluation, les membres du comité d'analyse du Fonds Région Ruralité 2020-2021, volet 2, recommandent l'acceptation du projet Quad Amiante totalisant 110 000 $ pour l'embauche d'un chargé de projet. L'aide du fonds se chiffre à 7 500 $.
Proposition? Y a-t-il quelqu'un?
Je propose.
Jacques Labrise. Question, commentaire, ça va? Construction d'un projet 2, construction de chalet relais au club de ski de fond de Thetford.
Le comité recommande l'acceptation du projet club de ski de fond de Thetford totalisant 30 000 $ pour la construction d'un chalet relais au club de ski de fond. L'aide du Fonds Région Ruralité 2020-2021 volet 2 se chiffre à 10 000 $.
Proposition?
François Barry.
François Barry. Merci. Construction d'un chalet des loisirs au parc municipal de Saint-Fortuna, point 3.
Le comité recommande l'acceptation du projet de la municipalité de Saint-Fortuna totalisant 103 567 $ pour la construction d'un chalet des loisirs au parc municipal. L'aide du Fonds Région Ruralité se chiffre à 15 000 $.
Steven, merci. Merci. Point 5, amélioration de l'épicerie sur son accessibilité coop des consommateurs de Saint-Méthode.
Le comité recommande conditionnellement la participation financière de Desjardins de la coopérative de consommateurs de Saint-Méthode totalisant 294 000 $ pour l'amélioration de l'épicerie et de son accessibilité. L'aide du fonds se chiffre à 15 000 $.
Ça.
Et c'est conditionnel à l'acceptation de Desjardins, c'est ça?
Oui, au montant financier avec la participation financière de Desjardins.
OK, merci. C'est Jean qui avait proposé?
Oui.
OK. Point 5, construction du refuge au sommet du Mont-Stock, coop récréo-touristique du Mont-Stock.
Le comité recommande l'acceptation du projet de la coopérative de solidarité récréo-touristique du Mont-Stock totalisant 127 000 $ pour la construction d'un refuge au sommet du Mont Attistock. L'aide du fonds se chiffre à 15 000 $.
Proposition?
Jacques Lessard.
Jacques, merci. Point 6, développement du versant Est de la montagne, coop récréo-touristique du Mont Attistock.
Le comité recommande l'acceptation du projet de la coopérative de solidarité récréo-touristique du Mont-Stock totalisant 40 000 $ pour le développement du versant Est de la montagne. L'aide du fonds se chiffre à 15 000 $.
Proposition? Francine Drouin, merci. Point 7, sentier fleuri, fruitier et aire récréative, parc municipal de Kinners Mills.
Le comité recommande l'acceptation du projet de la municipalité de Kenner's Mill, totalisant 23 000 $ pour le sentier fleuri-fruitier et des aires récréatives du parc municipal. L'aide du fonds se chiffre à 15 000 $.
Merci. Proposé par Denis Fortier. 8, visio-accélération, modernisation technologique des salles, espace entrepreneuriat, région de Thetford.
Le comité recommande l'acceptation du projet de l'E2RT totalisant 9 700 $ pour la visio-accélération et la modernisation technologique des salles. L'aide du fonds se chiffre à 6 790 $.
Opposition.
Philippe Charrette.
Jacques.
Philippe, merci. Point 9, ajout du module de jeu 18 mois, 5 ans, au parc Pontbriand à Thetford Mines.
Le comité recommande l'acceptation du projet de la ville de Thetford totalisant 32 000 $ pour l'ajout d'un module de jeu pour les 18 mois, 5 ans au parc de Pontbriand. L'aide du fonds se chiffre à 15 000 $
Opposition.
Jacinthe.
Merci. Point 10, ajout du module électronique Parc-École, quartier Saint-Maurice, Thetford Mines.
Le comité recommande l'acceptation du projet de la ville de Thetford Mines totalisant 95 000 $ pour l'ajout d'un module électronique au Parc-École du quartier Saint-Maurice. L'aide du fonds se chiffre à 11 432 $
Francine Drouin, merci. 11, Carrefour, salle multifonctionnelle, centre d'entraide et région d'Israélie.
Le comité recommande l'acceptation du projet du centre d'entraide de la région d'Israélie totalisant 29 235 $ pour le Carrefour salle multifonctionnelle. L'aide du fonds se chiffre à 12 313 $
Pascal Binet, merci. 12, aménagement du coin de lecture tout petit, bibliothèque Saint-Pierre-de-Bretonne.
Le comité recommande l'acceptation du projet de la municipalité de Saint-Pierre-de-Bretonne totalisant 2 807 $ pour l'aménagement d'un coin de lecture pour les tout-petits à la bibliothèque. L'aide du fonds se chiffre à 1 965 $
Sait plutôt que ce soit François une autre municipalité. François Barry, merci. Jacques. 13, chargé de projet zone d'innovation Thetford Mines.
Le comité recommande l'acceptation du projet de la ville de Thetford Mines totalisant 47 151 $ pour le chargé de projet zone innovation. L'aide du fonds se chiffre à 15 000 $
Daniel Talbot, merci. 15, prolongement de la piste cyclable de la rue Turc. Non, j'en ai. Excusez-moi. Ajout de la terrasse au Leeds Model School à Saint-Jacques-de-Leeds.
Le comité recommande l'acceptation du projet de la municipalité de Saint-Jacques-de-Leeds totalisant 28 000 $ pour l'ajout d'une terrasse au Leeds Model School au site patrimonial. L'aide du fonds se chiffre à 15 000 $
Isabelle Gosselin, merci. Prolongement de la piste cyclable rue Turcotte, Thetford Mines, point 15.
Le comité recommande l'acceptation du projet de la ville de Thetford Mines totalisant 60 000 $ pour le prolongement de la piste cyclable sur la rue Turcotte. L'aide du fonds se chiffre à 15 000 $
Propose.
Francine Drouin, merci. Et le dernier, point 16, ajout du sentier pédestre et vélo de montagne Thetford Mines.
Le comité recommande l'acceptation conditionnelle à la vérification des autres programmes de financement du projet de la ville de Thetford Mines, totalisant 30 000 $ pour l'ajout d'un sentier pédestre et de vélo de montagne. L'aide se chiffre à 15 000 $
Steven.
Merci, Steven. Affaires nouvelles, dépôt de projet, plan d'action politique culturelle.
En effet, ça, je vous ai déposé un projet au cours de la séance actuelle concernant le futur plan d'action au niveau de la politique culturelle. Il fallait faire un suivi au niveau du ministère de la Culture, en fait, avant la tenue du conseil de ce soir avec des brèves échéances. Ce qui est proposé à l'intérieur de ce plan-là, c'est vraiment d'y aller avec un appui financier pour les trois prochaines années au niveau de la MRC de l'ordre de 20 000 $ et encore, comme on le faisait dans le passé, de demander une contribution également de Desjardins. Ce qui ferait en sorte d'une contribution annuelle de la part du ministère de la Culture de l'ordre de 45 000 $ Par contre, d'ici la tenue du prochain Conseil des maires en novembre, on va avoir eu un retour également de la part du ministère de la Culture, à savoir à quelle hauteur ils peuvent et qui sont en mesure de contribuer pour les prochains plans d'action au niveau de la culture, au niveau de la MRC. Donc, lors des prochains conseils, on sera en mesure de valider un petit peu la hauteur de la participation des actions qui seront souhaitées à mettre en œuvre pour les trois prochaines années et qu'on aura à transmettre pour le 27 novembre prochain l'engagement officiel au niveau de la MRC. Fait que vous aurez le temps d'en prendre connaissance du plan d'action qui vous est déposé.
Ça va? Rapport annuel, activité incendie 2019, c'est un dépôt.
Bien, c'est une adoption, en fait. Le rapport vous a été transmis, puis à ce niveau-là, chaque municipalité, en fait, nous a transmis l'adoption du rapport au niveau de chacune des municipalités qui nous a été fournie. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est colliger l'information. Donc, c'est notre rôle de colliger cette information-là qui a été adoptée au niveau des municipalités pour en faire le sommaire et de transmettre ce rapport annuel-là au niveau du MSP.
Ça me prendra une proposition, s'il vous plaît.
Philippe Chabot.
Philippe Chabot, merci. Les deux autres éléments, je ne les ai pas sur mon ordre du jour, Louis, alors si tu veux les apporter.
Oui, en fait, c'est point 11.3, c'est avec la proposition de soutenir un projet de campagne d'achat local, surtout en perspective de la période d'achat des cadeaux pour la période des fêtes qui s'en vient. Et le point 11.4, c'était peut-être d'une invitation au niveau des différentes organisations au niveau de la région d'y aller avec l'idée de au lieu d'y aller avec le souper des fêtes traditionnelles avec les employés des organisations, mais de plutôt aller avec l'idée des cartes cadeaux pour soutenir en même temps les différents commerces locaux.
Marc-Alexandre, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Parce que ce qui m'embête, moi, je voudrais qu'on participe à un effort collectif, mais on ne sait pas la hauteur là, de ce qu'on pourrait mettre au niveau financier.
Bien, écoute, je ne suis pas embêté de répondre à ça.
Ouais. On pourrait faire, c'est peut-être évaluer la proposition qu'on pourrait faire à ce niveau-là. On a un prochain conseil d'administration au début novembre. Fait que c'est sûr que rapidement, dans les prochaines semaines, on sera en mesure de peut-être évaluer rapidement qu'est-ce qui pourrait être demandé, puis avec autant les chambres de commerce, les autres partenaires locaux, un petit peu la hauteur, puis évaluer vraiment les projets qui pourraient être mis en œuvre plus concrètement, puis qu'est-ce que ça pourrait impliquer aussi comme aide financière pour peut-être le revenir rapidement au niveau du prochain CA aussi qui pourrait être fait.
Ah, puis peut-être qu'on pourrait donner... si les gens sont d'accord, c'est peut-être qu'on pourrait, pour ne pas perdre de temps après le CA, s'il y a quelque chose qui bouge vite, ben peut-être qu'on pourrait mandater le CA de donner suite. Je ne sais pas si on vous donne un ordre de grandeur ou quoi, là, mais c'est sûr qu'on ne parlera pas de... Si on est plusieurs embarqués là-dedans, on ne mettra pas chacun 10 000 là-dedans. Là.
C'est parce qu'on risque d'être pas si nombreux que ça, parce que quand je pense à la Chambre de commerce, ils ne savent même pas s'ils vont passer à travers pour l'année prochaine parce qu'ils ne tiennent plus leurs activités de financement. Fait qu'on risque d'être probablement Desjardins, la MRC, la Ville. Tu sais, j'en vois pas beaucoup d'autres. Là. Ah, la SADC, oui, qui pourrait être partenaire. La
SADC, les députés.
Oui, les deux députés, c'est vrai.
Exact.
Ouais. Bon, mon affaire est toute gelée, Louis. Prends la relève.
À ce niveau-là, je ne pense pas que c'est gelé. Je pense que c'était plutôt silencieux, M. Vachon. Mais je ne sais pas si vous êtes tous à l'aise avec cette proposition-là, en fait. C'est vraiment dans l'optique qu'on soit en mesure de peut-être répondre à court terme et pas attendre au début novembre. Mais ce qu'on pourra faire, c'est vraiment un suivi quand même à l'ensemble du conseil, de peut-être faire un suivi quand même plus régulier en lien avec ce projet-là pour vraiment que tout le monde ait l'information un petit peu de ce qui se travaille là, si on va de l'avant avec une campagne de cette sorte-là.
Ben, moi, je pense qu'ils sont gelés.
Ils ne sont pas gelés.
Ils ne bougent pas, ça craint.
Je pense que c'est François Barry. Là, je pense que oui, effectivement, on pourrait aller assez tôt faire une promotion d'une campagne à ce niveau-là, c'est mieux plus tôt que plus tard, considérant tout l'achat en ligne et compagnie de Disney.
Parce que c'est vrai ce que Marc-Alexandre a dit, pour les fêtes, comme les gens ne veulent pas se promener dans les magasins et tout ça, la tendance va être beaucoup de l'achat en ligne et c'est autant de pertes pour nos entreprises et nos magasins en région. Alors, on ira avec des suggestions pour le CE puis on vous reviendra rapidement là-dessus, mais on aura un ordre de grandeur. Ça vous va? Qui a dit mot consent? Ouais. Merci. Oui? Non? Il est 20 heures, ou presque.
Et bien, il restait l'autre petit point de peut-être, c'est ça, on lancera l'invitation aussi pour tout le monde, puis on fera peut-être.
Oui, c'est plus lors d'une invitation, ça va.
Exact.
Et à ce moment-là, Louis, on pourrait commencer nos invitations pour nos invités, là.
Oui, on est 20 ans, puis la première personne, Mme Pascale Desilets, est déjà jointe à la rencontre. Donc, on pourra l'inviter, c'est vraiment avec la présentation en lien avec leur expérience au niveau de la politique des cours d'eau au niveau de la MRC d'Arthabasca. Donc, s'il n'y a pas d'autres interventions, je vais l'ajouter à la rencontre dès maintenant.
On s'entend pour 15 minutes, y compris les questions, ça vous va? Parce qu'on en a trois, ça fait 45 minutes, plus un autre 15 minutes là, que pour ce qu'on nous a demandé.
Est-ce qu'on poursuit l'enregistrement dans ce temps-là ou tu arrêtes l'enregistrement?
Oui? On devrait arrêter l'enregistrement, c'est juste ça que je voulais dire aussi.
Merci. Exact, ouais. Ça va être la levée de la séance en fait pour conclure.
Okay. Alors, Daniel Talbot pour la levée de la séance et on continue sans enregistrement.
Ouais.